Get down.
Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop.
Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss.
Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et c'est au nom de toute l'équipe de Thérapie Pop qui se résume en tout et pour tout à Gauthier et à votre serviteur, mais également quand même de toute l'équipe de Radio Présence que nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2025. Qu'elle soit riche d'amour, de sérénité et qu'elle préserve nos petites oreilles des acouphènes. En tout cas, on va s'en assurer aujourd'hui pour notre part. Mais avant de vous dévoiler le sujet de la première thérapie de l'année, j'aimerais saluer celui qui nous prendra encore par la main cette année pour nous abreuver de son savoir, c'est Gauthier. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo, j'ai signé jusqu'en juin, on verra pour la suite.
Bah bon, jusqu'à la fin de la saison en tout cas.
Voilà.
Pour débuter l'année en douceur, tu as choisi un album que j'affectionne particulièrement, je t'en remercie, parce que j'en suis ravi. J'ai découvert cette pépite dans la discothèque paternelle dans mes jeunes années, et je ne sais pour quelle raison je suis tombé amoureux immédiatement. La musique qu'il contenait était pourtant aux antipodes de ce que j'écoutais alors. On est loin des guitare saturée de Nirvana, puisque ce que nous allons entendre tout au long de cette thérapie, c'est du piano, uniquement du piano, mais attention, pas des moindres. Pour une fois, nous n'allons pas traverser la Manche, encore moins l'Atlantique, mais tout simplement le Rhin. Alors rassurez-vous, on reste au 20e et il ne sera pas question de Beethoven ou de Bach, hein. Nous n'aurions pas marché sur les plates-bandes du talentueux Eric et de son émission Mélomanie, dont nous vous recommandons fortement l'écoute par ailleurs. Non, nous allons bien en Allemagne, à Cologne plus précisément, mais avec dans nos valises un des plus grands pianistes américains, j'ai nommé Keith Jarrett. On est en 75 et ce dernier décide d'écrire l'histoire du jazz. On s'écoute un petit extrait de la première partie de ce concert et puis on revient vous expliquer comment et pourquoi ce concert a fait date.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Dans l'émission de ce jour, on se penche sur le fameux Köln Concert, le concert de Cologne donc, donné par Keith Jarrett en 75. Et pour commencer, Gauthier, je te propose de nous présenter l'artiste, tout simplement.
Te présenter d'abord, si tu le veux bien, la chanson qui dure 26 minutes, c'est assez pratique. Et notre émission dure 26 minutes, donc je te propose de la garder en fond et de nous la remettre de temps en temps un peu plus forte pour qu'on entende aussi l'évolution de la chanson au fur et à mesure. C'est bien fichu. Mais je pense que Keith Jarrett a pensé à Radio Présence et à Thérapie Pop le jour où il a joué ce concert.
Assurément.
Mais bien sûr.
Alors, qui est-il, ce bon Keith ?
Alors, écoute, ce bon Keith, c'est un pianiste et compositeur américain, comme vous l'entendez. C'est un gars qui a une importance capitale dans l'histoire de la musique et qui n'est pas nécessairement le plus connu des jazzmen. Tout le monde va pouvoir te citer Coltrane, Miles Davis, des cas comme ça. Pas toujours Keith Jarrett. Pourtant, il est important pour la musique en général et pour le jazz, notamment parce qu'il a réussi à rendre extrêmement populaire un style musical qui est parfois, et pour certains, parfaitement inécoutable, à savoir le jazz, qui est vrai... très basé sur l'impro, très basé sur des lignes, on va dire, rythmiques et mélodiques, pas toujours les plus évidentes, et bien lui, il a réussi à populariser un style qui ne l'était pas naturellement, on va dire.
Et il est tellement doué dans ce domaine, d'ailleurs, qu'il en est récompensé, Gauthier.
Oui, en 2003, il a reçu le Popular Music Prize pour, je cite, « ses contributions musicales exceptionnelles dans les domaines aussi divers que l'interprétation musicale et l'improvisation en jazz ». L'improvisation, on en reparlera en ce qui s'agit du Köln Concert. Alors, il y fréquente des petits gars, type McCartney, Quincy Jones, le regretté, Elton John, peut-être un peu plus discret, Led Zeppelin, et aussi, mon cher Théo, notre bonne Johnny Mitchell, bien évidemment, puisqu'il n'y a que toi qui ne reconnais pas son génie.
Voilà. Gauthier, je te propose qu'on se fasse un tout petit retour en arrière, quand même, vraiment, on va aller à la base.
Allez, moment Wikipédia, mon cher Théo.
Ouais.
Il est né le 8 mai 1945 à Allentown, en Pennsylvanie, donc aux États-Unis, vous l'aurez compris. Et c'est un mec qui, dès le départ, est plutôt doué, ou tout du moins qui bosse, puisqu'à 7 ans, il a pour habitude de jouer du Bach, du Mozart, en toute tranquillité. À 7 ans, Théo, tu jouais, toi, je me rappelle, au clair de la lune, éventuellement.
Donc, je jouais au puzzle, au Lego, moi.
Ben voilà.
Ouais. Et donc, il file à New York.
Il file à New York.
Assez jeune.
Il file à New York, assez jeune. Il se fait remarquer dans les salles de concert pour son jeu, etc. Et assez rapidement, il commence à sortir ses premiers albums, puisqu'en 67, Live Between the Exit Signs sera donc son premier album en tant que, entre guillemets, chef de groupe. Tu me lèves, Théo, tu me relèves.
Non,
j'ai dit une bêtise.
Pas du tout, pas du tout.
Tu suis la mélodie, toujours.
Exactement.
Écoute-moi, moi aussi. qui est publié chez Vortex, pardon. Et il sera suivi en 68, notamment par l'album Restoration Rune. Voilà, après des années d'apprentissage, notamment aux côtés d'un dénommé Charles Lloyd, grand jazzman finlandais.
Et il a un groupe, mais il ne rechigne pas à prêter ses talents à d'autres musiciens de renom.
Charles Lloyd, on l'a dit, il jouera aussi aux côtés du mythique, légendaire, pape peut-être de la musique jazz, à savoir Miles Davis, parce que une bonne école d'apprentissage. Mais effectivement, le bougre va se faire connaître par sa carrière solo avec son propre groupe, avec une volonté chevillée au corps pour Keith Jarrett de faire des albums aussi de piano un peu solo, ce qui le conduira notamment à son départ de Columbine Records, notamment pour des incompatibilités, on va dire, de vision artistique. Il ira chez ICM, sauf erreur de ma part. ICM, qui, je veux pas te dire de bêtises, mais qui, je crois, est un label allemand d'ailleurs de musique à vérifier, c'est possible.
Ouais.
En tout cas, chez un dénommé. Avec un dénommé Manfred Eicher, et lui, en tout cas,
a priori,
sonne bon l'outre-Rhin. Voilà, il va traverser l'Europe en Renault 5, etc., pour faire la tournée notamment qui le traînera jusqu'à Cologne.
D'accord. Et donc, ce bon Keith, conscient de son talent, l'improvisation lui fait pas peur, on est en train de l'entendre. Où est-ce qu'il en est en 75, Gauthier ?
Alors, en 75, il commence donc à faire ses concerts qui sont en impro, parce que, précisons-le d'ores et déjà, Théo, le Köln Concert, c'est une impro d'à peu près, je crois, une heure, enfin un peu moins d'une heure quand même. Mais il arrive, ce monsieur, il s'assoit à un piano et puis il joue, et puis voilà. Ce qui est intéressant, puisque tu n'entends jamais la même chose quand tu vas le voir en concert. Donc en 75, au moment où sort le Köln Concert, ses albums solo donc, paraissent. Peut-être un peu, on va dire, dans les collections d'aficionados de jazz qui connaissent déjà Keith Jarrett, mais il n'est pas forcément extrêmement connu du grand public. Par contre, à la fin des années 70, ces concerts sont quasiment devenus des rituels religieux.
Ouais.
Il y a des troupes de gens qui se massent, entre guillemets, pour venir le voir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'entre-temps, 75, le Köln Concert est sorti, et c'est ça qui va propulser Keith Jarrett comme l'un des probablement plus grands jazzman de l'époque, ou tout du moins celui qui est le plus apprécié par au-delà des aficionados, justement, il popularise ce style avec ce que tu entends, mon cher Théo, en fond, toujours cette partie 1 du Köln Concert qui est devenue depuis tout à l'heure un tout petit peu plus péchu.
On sent que ça, en effet, ça recommence à devenir un petit peu péchu là. Hein,
Vous l'entendez s'encourager d'ailleurs, ce bon fils.
Après ce petit intermède, donc durant lequel on a pu se délecter des talents artistiques de Kijaret, on va se plonger justement dans ce fameux concert, Gauthier. Allez. Où est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on est ?
Donc on est le 24 janvier 1975 et donc c'est la date à laquelle Kiss décide de se pointer donc à l'opéra de Cologne, le fameux Köln, en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Il y vient dans le cadre d'une tournée qui avait commencé je crois en 1973, donc autant vous dire que ça fait un certain temps qu'il tourne, on va y revenir, ça son importance. Il est dans une salle, 1300 personnes devant lui et voilà que notre ami se lance.
Et je te remercie de m'apprendre qu'on prononce Köln.
C'est Köln, oui.
Voilà, voilà. J'ai toujours appelé ça Colm.
C'est mon petit côté merci, bilingue.
Ouais,
voilà.
C'est bien. Ouais, casque à pointe, tout ça.
Je me sabote toutes les prononciations de trucs en anglais, au moins que je prononce bien allemand.
Donc c'est pas rien quand même, 1300 personnes. Hélas, Gauthier, tout va pas se dérouler comme prévu, à commencer par la santé vacillante de ce pauvre Kiss.
Oui, c'est un pauvre Kiss qui se pointe extrêmement fatigué et souffrant d'un mal de l'eau terrible. On y reviendra. Et qui en plus.
Pour un pianiste.
Voilà, va se présenter avec des soucis techniques.
Alors vas-y, détaille-nous ça.
On l'a dit, la tournée a commencé en 73, ça fait donc plus d'un an et demi, voire deux ans qui tourne.
Ouais.
C'est un peu long comme tournée. Alors, la première difficulté, et pas la moindre, c'est le matériel. Vous l'entendez, il joue du piano, donc la seule chose qu'on demandera à l'Opéra de Cologne, c'est de lui fournir un piano. Et il est convenu qu'il joue sur un Bösendorfer modèle Imperial 290, faut être très précis, parce qu'à l'époque, ce piano est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand piano de concert qui existait.
Le plus grand, c'est-à-dire
le meilleur.
Le meilleur,
voilà.
D'accord.
Manque de bol, quand Kiss arrive, il n'y a pas de ce bon Bösendorfer modèle
clavier
impérial.
Bon, tant pis.
Voilà. Et on le met devant le synthé de ta grand-mère, tu sais, qui faisait. Non, c'est quasiment ça.
Comment
on
tu le sais?
Mais, toutes nos grand-mères avaient un synthé comme ça. On le met devant un piano d'étude en piteux état qui servait en fait aux répétitions de l'opéra. Une sorte de. Voilà, une sorte de piano, c'est celui sur lequel tu as appris, toi, justement, à jouer du piano chez ta grand-mère, justement.
Ouais.
Alors, non seulement. Le piano ne dispose pas d'assez de touches, c'est un clavier raccourci, parce que tous les pianos n'ont pas exactement
voilà.
le même nombre.
C'est pour ça que je te demandais le plus grand.
Alors, peut-être le plus grand, je sais pas, mais en tout cas, le Bösendorfer, tu me forces à le reprononcer, c'était en tout cas considéré comme l'un des meilleurs. Il y a beaucoup moins de touches graves et de touches aiguës, et en plus, les pédales ne fonctionnent pas, ou fonctionnent mal, et les touches n'ont pas de bon retour. Enfin, vous savez, quand vous jouez au piano...
Oui, ça remonte.
Voilà, c'est censé remonter, et bon, voilà. Et là, bon, de temps en temps, la touche ne remonte pas bien. Donc, c'est vrai que c'est pas top pour faire un concert, encore moins quand tu prétends faire du jazz.
Devant 1300 personnes.
Devant 1300 personnes. Et ce bon Kiss, qui s'en démonte pas, va accepter quand même de jouer malgré tout, et va accepter, c'est là peut-être aussi le génie de ce concert, et ben de composer avec les contraintes que lui impose ce piano. Et ça va avoir une importance fondamentale. On l'entend, par exemple, il joue majoritairement sur le centre du piano, puisqu'encore une fois, les graves et les aigus sont défaillants, voire inexistants. Donc il joue sur des tonalités majoritairement médianes, on va dire. Et par ailleurs, pour compenser la faiblesse des basses du piano, il va jouer beaucoup avec la main gauche des sections rythmiques. Vous l'avez entendu lors de la précédente pause, c'est très rythmé. Résultat des courses, eh ben, au lieu d'avoir une partition très jazz, très virtuose, avec des improvisations très complexes et tout, ben, Kiss, lui, utilise, on va dire, une ossature assez faible de 1, 2, 3, 4, 5 accords, qui va, ben, autour desquels il va travailler, et en fait, au fond, rendre la chose beaucoup plus pop, beaucoup plus écoutable que si c'était simplement un pianiste qui se lançait au bar, on va dire, sur son piano. Ça fait partie du génie du Köln Concert, non seulement d'arriver à s'adapter au piano, et en s'adaptant au piano, arriver justement à en fournir un matériel presque plus écoutable pour le commun des mortels que nous sommes. Ça rajoute en plus cette espèce de côté hypnotique un peu à cette mesure, puisqu'on joue des rythmes très, très répétés, etc. Et vous avez des thèmes qui sont répétés, un peu comme dans Wagner, on va dire, des thèmes musicaux qui sont répétés, qui sont repris au fur et à mesure. Quoi. Voilà.
Et on parlait de la santé vacillante donc, de Keith Jarrett il y a quelques instants. Tu nous détailles un petit peu ça ?
Ben alors, ça va pas bien. Donc, notre cher ami a fait une série de nuits blanches. Alors, à titre indicatif, le concert là, que vous entendez commence à 23h30. Le gars n'est pas en première partie de soirée, on va dire. Donc, il est crevé. Il a en plus des problématiques de dos très importantes. Le piano sollicite quand même pas mal le dos, ne serait-ce que par la position, surtout si vous jouez sur un piano d'étude tout pourri et trop petit. Il est en plus éreinté par le trajet épuisant qu'il a fait dans la journée pour revenir de Suisse où il venait de faire son précédent concert. Donc, t'as un pianiste en méforme sur un piano pourri. Voilà.
Et qui commence à 23h30.
Et qui commence à 23h30.
Alors, je sais pas s'il y a eu une première partie, mais en tout cas, le public devait commencer à trouver le temps un peu long. Le pianiste arrive, donc Keith Jarrett arrive, le concert débute. Comment est-ce qu'il débute ce concert ?
Citons-le, notre cher Kiss. Je le cite dans le texte. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais jouer. Pas de première note, pas de thème, le vide. J'ai totalement improvisé du début à la fin, suivant un processus intuitif. Une note engendrait une deuxième note, un accord m'entraînait sur une planète harmonique qui évoluait constamment. Je me déplaçais dans la mélodie, les dynamiques et les univers stylistiques, pas à pas, sans savoir ce qui se passerait dans la seconde suivante. Bah, bon, ça fait le Köln Concert, peut-être l'un des albums de jazz les plus connus de notre époque.
Voilà, on connaît la suite, le concert est mythique. Toutefois, Gauthier, est-ce que c'est le genre d'album qui se vend bien, ça ?
4 millions d'exemplaires, ce qui est monumental. C'est monumental, même pour un album de musique jazz. C'est les meilleures ventes de l'histoire de ce label, ICM, qui est connu. Hein. Il y a beaucoup d'albums qui sont chez ICM. Et c'est aussi l'album le plus vendu de piano solo, quoi. Donc, c'est un petit succès.
C'est mémorable, d'accord. Voilà. Et t'as quelques anecdotes bien sympathiques, comme toujours, à nous livrer sur cet album. À commencer par le fait que l'album, déjà, n'aurait jamais dû exister.
Et non. Alors, j'ai trouvé tout à la fois... le vrai et le faux, on va dire. Même si je ne suis absolument pas capable de déterminer ce qui est vrai et faux, on va dire tout est son contraire. Alors, la légende dit que le concert ne devait pas être enregistré et que c'est un technicien qui, un peu à la dernière minute, a décidé de poser des micros pour faire, entre guillemets, un peu les archives de la salle. Sans cette initiative, eh ben, en fait, seuls les heureux élus, les 1300 gars qui étaient dans la salle, auraient pu profiter de ce que vous entendez. Alors, c'est une version. L'autre version que j'ai pu lire, c'est que Keith, justement, a accepté de monter sur scène malgré le piano, malgré son état de santé défaillant, parce qu'il savait que c'était enregistré et que donc il fallait produire, quoi.
Ouais, mais justement, enfin... Un type fatigué avec un piano pourri, tu vois, moi j'aurais pas accepté.
Ouais, sauf si tu sais que t'as un engagement, que tu sais que tu dois. Bon, déjà, il avait un concert à donner, puis si tu sais qu'en plus c'est capturé ce soir-là, qu'on a tout installé pour ça, je suppose, pour un musicien, je suis pas un musicien professionnel, mais plus compliqué de dire à tout le monde, bon, en fait, je déconne, je viens pas, je suppose.
Je sais pas. Une dernière petite anecdote pour la route.
Alors, vous l'avez peut-être, pas entendu, mais vous pourrez l'entendre en réécoutant cette émission. Au tout début du concert, on entend des rires du public très subtils, un peu en fond, ils font un peu monter le son. Pourquoi ? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est parce que Keith Jarrett a commencé son concert en reprenant la sonnerie qui signale le début des concerts dans l'Opéra de Cologne.
C'est ce qu'il dit, qu'il n'avait pas d'idée.
Il n'avait pas
d'idée. Pour commencer, bah tiens.
Il a entendu la petite musique qui se faisait, vous savez, quand vous allez à l'opéra, etc., il y a toujours soit une sonnette, soit quelque chose. Eh bien, lui, il a décidé initialement d'improviser sur la musique d'accueil de l'opéra de Cologne, ce qui, bien évidemment, n'a pas manqué de faire rire le public, qui s'est dit « Waouh, il est vraiment en impro, notre ami
!» C'est
ben
fort.
Voilà, ça a donné ça.
On peut dire que ça force le respect, en tout cas, cet album. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en déroulant un dernier extrait de ce fabuleux concert. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine et on vous proposera de revenir en 2024 pour un petit best-of de ce qu'on a pu découvrir l'année dernière. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi Gauthier.
Salut Théo.
À lundi.